vers un retour progressif à la normale après les fortes pluies de ces derniers jours qui ont eu des conséquences sur plusieurs communes où les cours d'eau ont débordé. Une nouvelle étape de franchie pour les projets de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Après 5 heures de débat, il a été adopté par les sénateurs à Paris. Un débrayage annoncé demain de la section STKE d'Enercal, alors que plusieurs sites du fournisseur d'énergie ont été la cible de cambriolage et de vandalisme aux îles Loyauté et en province nord. Santé, former pour mieux dépister, c'est l'objectif de l'action mise en place par l'Agence sanitaire et sociale face aux maladies cardiaques. Le Salon de l'agriculture, l'événement continue en métropole avec des Calédoniens qui ont déjà remporté 2 médailles au concours général agricole. Au chapitre sportif, des experts de l'INSEP actuellement en Calédonie pour proposer des formations de cadres techniques pour amener nos athlètes vers la performance avec Tahiti 2027 en ligne de mire. Bonsoir et soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tous, savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Météo France, Nouvelle-Calédonie maintient la vigilance orange, forte pluie orage sur la côte est de Wegua à Kwawa et sur la côte ouest de Vaux à Moindoum. La vigilance est jaune sur le reste de la Grande Terre, au nord d'une ligne Paitachio inclus, ainsi que sur Belep et Ouvéa. L'activité pluvieuse a entraîné d'importants cumuls de pluie. À la montagne des Sources, au Mont d'Or, il est tombé 145 millimètres au cours de ces 12 dernières heures, 100 mm à Dimbéa ou encore 93 mm à Nouméa. Un épisode pluvieux intense qui a provoqué des débordements de cours d'eau et la fermeture de nombreux axes routiers, Léo Fichaud.
Oui, la prudence est toujours de mise pour les usagers de la route. En cette fin d'après-midi, les pompiers confirment qu'à Bouraille, la RT1 est impraticable. La sortie nord du village, la ligne droite de Nekou et le passage au lieu-dit Sigogne sont submergés. Hier soir et aujourd'hui, plusieurs personnes se sont retrouvées coincées après avoir tenté de s'engager sur une voie submergée. Des rondes sont toujours effectuées toutes les heures par les sapeurs-pompiers pour surveiller l'évolution de la situation. À Bouraille et Ponérewin, un centre d'accueil et d'hébergement est ouvert pour les personnes qui auraient été surprises par les intempéries. Les centres d'hébergement sont signalés sur les réseaux sociaux, les pages Facebook des différentes communes. À Dimbéa, les routes sont de nouveau praticables en dehors de la zone du Golfe et du Calvaire. Les radiers de la commune et le parc Fayard sont toujours interdits à la circulation. Les pompiers effectuent des rondes, là aussi régulièrement sur la commune et appellent la population à la vigilance et à ne pas adopter de comportements à risque. Le capitaine Bruno Chitoussi, chef de corps des pompiers de Dimbéa.
C'est toujours la même chose, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les auditeurs, ne présumez pas avec votre Clio, parce que les gens pensent qu'ils peuvent passer, mais non, on n'a pas eu de blessés à déplorer, mais on a quand même 5 voitures, donc des VL urbaines, qui sont restées en plein milieu de la route inondée, parce que les gens ont présumé. Donc dès que vous voyez de l'eau, battez en retraite, reculez, restez chez vous. C'est qu'une crue, c'est une pluie, c'est ponctuel, c'est connu, mais n'allez pas vous mettre en danger, parce que c'est là qu'on sollicitera les pompiers. Eux sont prêts à aller par ailleurs, parce que, bah, évidemment, on doit maintenir la vigilance sur l'ensemble du secteur. Les pompiers, la police, les services techniques sont sur la brèche. On est très très vigilants à ce qui se passe au-delà du col de Tongoué. Entre le col de Tongoué et de Katiramona, là, on a toutes nos équipes qui balayent la zone quasiment en permanence.
À noter également, les sites du parc provincial de la Rivière Bleue et des chutes de la Madeleine sont également fermés jusqu'à ce vendredi 27 février. La réouverture se fera ce week-end en fonction des conditions météo. Sur le reste du territoire, la RT3, elle, est difficilement accessible encore maintenant à cause d'éboulements dans le col des Roussettes et au niveau de Ponérewin entre Monéo et Néavin. Laurie Macam, directrice des services techniques pour la commune de Ponérewin.
On a arrêté le service de transport hier. On a évacué les écoles et on a ramené donc les enfants internes du centre scolaire de Mou. Tous les enfants ont regagné sereinement leur habitation. Et là, on reprend le service de transport scolaire donc vendredi pour récupérer des enfants qui sont scolarisés donc sur Bouraille, Point-Vimier, Touau. Et après, on reprend le service de transport pour la ligne journalière, donc lundi.
Poya a aussi suspendu le transport scolaire et la cantine scolaire pour demain. À Kwawa, les services municipaux fermés toute la journée devraient rouvrir demain. Le gouvernement, au travers de la sécurité civile, appelle elle aussi la population à la plus grande vigilance et demande de respecter les consignes de sécurité. Pour toute demande d'information ou en cas d'urgence, vous pouvez contacter le 18 pour joindre les sapeurs-pompiers.
La météo qui a eu raison de l'organisation du premier débat sur les élections municipales. Il devait avoir lieu à 17h avec les 3 têtes de liste engagées pour le scrutin à Bouraille, mais les crues des rivières et les inondations ont rendu l'organisation de ce débat impossible. Il sera reprogrammé ultérieurement. Les premiers débats sur RRB débuteront donc la semaine prochaine. Le Sénat a adopté par 215 voix contre 41 la réforme constitutionnelle sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie qui vise à inscrire dans la Constitution les accords de Bougival et Élisée Oudinot. Le texte va maintenant être transmis à l'Assemblée nationale où le résultat s'annonce beaucoup plus incertain. Elisabeth Noir.
Plus incertain en effet parce que les sénateurs socialistes ont choisi de s'abstenir, mais ils ont prévenu que si la navette parlementaire se poursuivait comme prévu, les députés socialistes voteraient, eux, contre le projet de loi constitutionnelle. En ouverture de la séance au Sénat, c'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui est intervenu et il est notamment revenu sur l'aide financière apportée par l'État à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que sur le résultat des trois référendums.
Celles et ceux qui pensent que l'on devrait conditionner le soutien économique et social à un accord préalable sur les institutions se trompent profondément. C'est une conviction que nous portons avec la ministre des Outre-mer. Les Calédoniens ont choisi la France et la France ne fait pas de chantage à ses concitoyens sur la promesse républicaine. C'est parce qu'il a été dit par trois fois oui à la République que la République doit déployer son ambition économique et sociale sans présager de l'avenir et du reste des discussions politiques.
Sébastien Lecornu a ensuite salué l'accord parce qu'il a permis, dit-il, aux partenaires de se parler à nouveau. C'est pour lui un point de départ, même si cet accord n'est pas parfait. Mais il affirme que le statu quo n'est pas une option viable.
Mais il ne faut jamais minimiser les efforts et les risques consentis pour faire exister le compromis. Prendre le risque du dialogue plutôt que des postures antagonistes. Accepter les innovations indispensables au renouvellement politique. Ce serait une faute. S'il n'y a plus l'accord de Bougival, que restera-t-il ? C'est une des questions à laquelle les débats parlementaires devront répondre. Le statu quo n'est pas une option viable. Il n'est pas un choix politique, mais davantage un renoncement aux idéaux républicains, au progrès social, au développement économique et à la construction renouvelée de la paix sur le territoire.
Dans le débat, le sénateur socialiste Patrick Kanner, signataire de la tribune publiée récemment dans Le Monde, a fait le procès de la méthode du gouvernement en évoquant une accumulation d'erreurs, des choix politiques contestables et une gestion qui a rompu avec une méthode qui a fait ses preuves. Les sénateurs socialistes ont décidé de s'abstenir pour laisser l'opportunité au gouvernement de suspendre l'examen du projet de loi constitutionnelle et de convoquer des élections provinciales dès le mois de juin. C'est ce qu'a confirmé la sénatrice socialiste Corinne Narasiguin. Elle annonce après le débat que si le projet de loi est programmé à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste votera contre.
Dans tout ce travail qui a été fait, nous craignons que si nous disions que nous étions contre immédiatement, dès l'examen au Sénat, cela aurait pu être compris comme le fait de tourner le dos à tout ce travail et tourner le dos à ceux qui ont porté cet accord avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Ce que nous pensons, par contre, c'est que ce projet de loi constitutionnelle est très mal engagé, que cet accord a peu d'avenir politique en Nouvelle-Calédonie parce qu'il a trop de défauts, il a trop de problèmes de consensus. Et nous avons prévenu que si le gouvernement ne suspendait pas le projet de loi constitutionnel après cet examen au Sénat et qu'il programmait la lecture à l'Assemblée nationale sans convoquer des élections provinciales au printemps, dans ce cas, les députés socialistes voteront contre et qu'il n'y a donc pas de majorité au Congrès aujourd'hui pour adopter ce projet de loi constitutionnel en l'état.
Le sénateur Georges Naturel plaide lui aussi pour l'organisation d'élections provinciales dès le mois de juin. Et il a choisi lui aussi de s'abstenir parce que l'accord de Bougival ne fait pas consensus depuis son rejet par le FLNKS.
Je me suis abstenu sur le projet parce que je suis convaincu, et ça c'est l'histoire qui le dit, hein, qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas avoir un accord s'il n'y a pas un consensus général. Donc aller en force pour faire une réforme constitutionnelle, ça ne réglera pas le problème calédonien. Donc il est essentiel effectivement d'aller jusqu'au bout des discussions pour essayer de trouver un accord avec un consensus général. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cette réforme constitutionnelle, je me suis abstenu sur le texte. Je ne sais pas comment la procédure ira à l'Assemblée nationale et au Congrès de Versailles. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faudra prévoir ce que j'appelle le plan B. Et le plan B, c'est effectivement d'organiser les élections provinciales avant le fin juin.
Sans surprise, le sénateur indépendantiste Robert Rowy a lui voté contre. Et il accuse l'État de vouloir passer en force comme en 2024.
Malheureusement, ce soir encore, dans le débat qu'on a, on vient de s'apercevoir que l'État, comme à son habitude, comme en 2024, essaie de passer en force en rejetant l'ensemble des amendements qui étaient proposés, soit par le PS, mais à travers aussi le PS. Je pense qu'il y a aussi des amendements qui étaient proposés par des camarades de l'UNI, je crois. Donc, et cela démontre bien que l'État, aujourd'hui, veut passer en force parce qu'ils veulent que ce problème soit résolu cette année.
Réaction enfin de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Elle constate que le vote par le Sénat du projet de loi constitutionnelle est une première étape.
Nous les prenons les unes après les autres. Effectivement, la prochaine qui s'annonce, c'est l'examen et le vote par l'Assemblée nationale de ce projet de loi constitutionnelle. Alors, nous nous y préparons. Moi, je ferai ce que j'ai fait jusque-là. Je continuerai à faire la pédagogie du texte, à expliquer pourquoi ces accords sont importants pour les territoires, pourquoi avancer sur le volet politique, le contenu de ces accords qui sont des avancées réelles pour le territoire, le pacte de refondation économique et sociale, le protocole financier qui permet d'investir 1 milliard d'euros sur l'année 2026, et en quoi permettre à la Calédonie de marcher sur ses deux jambes, le volet politique et le volet économique, est une opportunité pour les populations, parce que c'est bien ce qui nous intéresse, faire en sorte que la vie au quotidien des Calédoniens puisse s'améliorer. Donc voilà, les semaines qui arrivent, ce sont des semaines de palabres, d'échanges, de négociations pour aller convaincre jusqu'à la dernière minute.
Le projet de loi constitutionnel a donc été adopté par le Sénat. Sur les 345 sénateurs votants, 256 se sont exprimés, 215 ont voté pour, 41 ont voté contre. Le texte va être transmis à la commission des lois de l'Assemblée nationale avant son examen en séance publique. Dans un communiqué, le député Nicolas Metzdorf se félicite qu'une grande majorité des sénateurs ait assumé ses responsabilités en se portant garante de l'accord et de ses équilibres. Sans surprise, écrit-il, les groupes communistes et écologistes se sont mués en véritable porte-parole de ceux qui ont mis le territoire à terre et qui refusent aujourd'hui le dialogue. Nicolas Metzdorf ironise par ailleurs sur le courage du sénateur naturel qui s'est abstenu alors qu'il figurait il y a encore quelques semaines sur la photo de la signature de l'accord à l'Élysée. Il estime que son collègue, le sénateur Rouy, aura au moins eu la cohérence de ses convictions.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Les circonstances de la mort du windsurfer retrouvé sans vie dimanche au large de l'île aux Canards, dévoilées ce mercredi par le procureur de la République. Dans un communiqué, Yves Dupas explique que les investigations médico-légales ont conclu à la présence de 6 morsures, Léo Fichot.
Oui, au niveau de l'avant-bras droit, de la jambe droite et de la jambe gauche, les plaies de la jambe droite ont conduit à la section de l'artère et de la veine fémorale. Selon l'expert spécialiste des squales, ces morsures sont compatibles avec un requin-tigre d'une taille de 3 mètres au moins. Le procureur de la République signale que le requin a également mordu à plusieurs reprises l'arrière de la planche. Deux hypothèses ressortent des conclusions médico-légales. La première, privilégiée à ce stade, évoque une première morsure au poignet qui aurait provoqué un état de panique, entraînant une inhalation d'eau et une noyade accidentelle. Les autres blessures pouvant être intervenues après le décès. Mais les médecins légistes n'écartent pas un second scénario, celui d'un malaise survenu avant l'attaque du requin. Enfin, l'enquête a permis d'affirmer qu'aucun témoin n'a assisté à la scène, le plaisancier qui a déclenché l'alerte ayant aperçu le corps de l'homme, probablement déjà décédé.
La campagne de prélèvement de requins, tigres et bulldogs se poursuit après l'attaque de dimanche dernier. Une campagne annoncée est menée conjointement par la province sud et la ville de Nouméa. EPLP, Ensemble pour la planète, a déposé, vous le savez, un recours auprès du tribunal administratif de Nouméa. Ce référé sera examiné en audience le 2 mars prochain à partir de 13h30. J'ajoute que la liste indépendantiste Unité Pays Nouméa a publié un communiqué intitulé « L'émotion ne peut pas remplacer l'exigence de droit » et écrit notamment « Notre pays s'est construit sur des accords et sur le respect des règles communes pour éviter que les tensions ne dégénèrent, fragiliser le principe de l'égalité, même au nom de la sécurité, ouvre une brèche dangereuse ». Il critique la relance d'une campagne de prélèvement de squales dans le lagon au large de Nouméa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 78% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la province sud et la mairie de Nouméa ont raison de reprendre les prélèvements de requins, tigres et bulldogs après la mort d'un véliplongiste victime d'une attaque de requins. Ils sont 22% à être d'un avis contraire. Notre question du jour, Antoine Comboiré va-t-il réussir, selon vous, à maintenir le Paris FC, le nouveau club qu'il entraîne en Ligue 1, si vous pensez qu'il va y arriver, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31 46. Vos rendez-vous d'antenne, c'est Yves Dupas, le procureur de la République, qui sera notre invité du matin demain à 7h30. Il évoquera plusieurs affaires en cours et réagira également à la publication du rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les émeutes de mai 2024. Autre rendez-vous d'antenne, l'armée investit en Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, les FANC ont lancé une série de travaux de construction et de réfection à l'image de la construction du nouveau mess de l'artillerie. Pour en parler, Jean-François Baudin recevra le général Soubrier, commandant supérieur des FANC, l'ingénieur en chef de première classe Dominique Lancien, directeur d'infrastructure de la défense de Nouméa, Pascal Roman, directeur de la SCB, et Antoine De Palmas, associé gérant de la société Epuro Nouvelle-Calédonie. Ce sera dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, demain midi. Il est 18h, on va tourner une courte pause publicitaire avant de voir le reste de l'actualité. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Info soir, Michael Juleski.
Au chapitre social, un débrayage annoncé demain matin sur plusieurs sites d'Enercal à l'initiative de la section STKE après les méfaits à répétition subis ces dernières semaines, cambriolage et dégradation aux îles Loyauté mais aussi en Brousse. Paul Passat est le secrétaire général de la fédération STKE Énergie.
C'est pas contre l'employeur, c'est surtout pour marquer un peu la montée en puissance des dégradations de nos sites sur les îles isolées, donc sur les îles Loyauté, puis sur le nord aussi. Voilà, depuis quelques temps, il y a eu pas mal de cambriolages, beaucoup de violences envers nos agents. On est là pour le travail, on n'est pas là pour se mettre un peu contre la population, donc on est juste là pour faire notre boulot. Donc nous, on n'apprécie pas trop qu'on vienne saccager l'outil de travail, c'est pour ça qu'on fait ce mouvement. Voilà. Surtout pour sensibiliser les mairies, les institutions, puis les coutumiers aussi.
Un débrayage qui se déroulera donc demain matin durant 55 minutes. Réuni ce matin pour sa séance hebdomadaire, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a examiné un avant-projet de loi du pays et il en a adopté un autre, Jean-François Baudin.
Oui, le projet de loi adopté concerne les accueils de mineurs actuellement régis par deux textes. Les dispositions adoptées concernent les personnes physiques ou morales organisant un accueil à caractère éducatif pour au moins un mineur. Le texte fixe ainsi les conditions à remplir pour exercer au sein d'un établissement d'accueil des mineurs. Il acte également la création d'un statut d'assistant maternel. Les membres du gouvernement ont donc également examiner un avant-projet de loi du pays destiné à réaliser des économies sur les dépenses de santé. Ce texte s'inscrit dans le cadre du plan de réforme budgétaire, sociale et fiscale pour rétablir l'équilibre des finances publiques. On retiendra notamment qu'il prévoit plusieurs mesures pour rationaliser la prise en charge des dépenses de santé. Cela passera notamment par la mise en place d'une classification commune des actes médicaux ou encore par la clarification des conditions de prise en charge des transports sanitaires non urgents. Cet avant-projet de loi du pays envisage aussi de créer un numéro calédonien de santé qui permettra d'identifier les personnes à des fins de prise en charge sanitaire et médico-sociale. Il doit aussi permettre d'assurer un meilleur suivi des personnes et de leur parcours de santé.
Lors de cette séance, les membres du gouvernement ont également approuvé les tarifs et le programme d'exploitation d'Ercal. Ils ont également prolongé de 6 mois le dispositif d'aide à la continuité pays, qui reste donc en vigueur sous sa forme actuelle jusqu'à fin août 2026. En bref, le conseil municipal de Nouméa est réuni ce soir. Il s'agit notamment pour les élus d'examiner le budget primitif 2026 de la commune.
RRB, il est 18h04.
Informé pour mieux dépister, la SSNC organise pendant 3 jours une formation dans le cadre du diplôme universitaire écoscopie de dépistage des cardiopathies rhumatismales chroniques en zone d'endémie. Une formation donnée par le docteur Melchior Jonvaux, cardiologue au CHU de Bordeaux, qui réunit une petite quinzaine de professionnels de santé du territoire afin de renforcer le dépistage précoce du rat.
Donc c'est une formation qui se déroule sur un an avec plusieurs sessions, des sessions théoriques où on va avoir des cours théoriques, du e-learning, des sessions pratiques comme celle d'aujourd'hui, 3 jours, où on va pouvoir apprendre aux apprenants à manier la sonde d'échographie et à pouvoir faire de rapides échoscopies. Donc c'est vraiment des examens de 2-3 minutes. Et tout ça dans le but de faire un dépistage de masse chez les enfants, notamment en classe de CM1 et après en classe de 3e à terme, pour pouvoir dépister des atteintes de cardiopathie rhumatismale. Donc c'est uniquement du dépistage, c'est des examens rapides qui vont répondre à certains critères précis pour lesquels ensuite vont être adressés au cardiologue référent expert dans son cabinet pour pouvoir faire une échographie, une vraie échographie de confirmation, et donc pour savoir si oui ou non il y a vraiment une cardiopathie rhumatismale chronique.
L'objectif pour la SSNC, amplifier le dépistage cardiaque chez les élèves, un dépistage à l'école lancé en 2008 et qui devrait également être fait au collège dès 2027. C'est pourquoi les soignants du territoire sont formés, comme Antoine Géhan, infirmier libéral au Mont d'Or, pour faire face au manque de cardiologues.
Ça nous apporte une nouvelle compétence en fait. Derrière, on doit faire 150 échographies accompagnées par des cardiologues du territoire très expérimentés et qui vont valider en fait au fur et à mesure, nous driver et affiner notre pratique pour qu'on soit vraiment opérationnel à l'issue de la formation. C'est intensif, on a revu toutes les bases physiologiques et là donc on est sur la pratique avec des jeunes qui ont accepté d'être cobayes entre guillemets pour qu'on puisse apprendre à bien manipuler la sonde d'échographie, ce qui est pas facile, donc ça demande de la pratique. Et voilà, l'idée c'est de faire le plus de dépistage possible pour pouvoir prendre en charge dès le début de la maladie, avant que ce soit trop grave, et éviter qu'elle s'aggrave et pouvoir stabiliser les choses.
Après cette formation pratique de 3 jours, les apprenants se retrouveront en avril pour une semaine où ils réaliseront directement les examens de dépistage dans les écoles, accompagnés par des professionnels qualifiés.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Alifou, c'est le 102.5.
On prend la direction du Salon de l'Agriculture. La plus grande ferme du monde a ouvert ses portes samedi soir pour nous à Paris. La Calédonie a son stand sur place. Une belle vitrine pour le monde agricole du territoire. Et nos représentants ne vont pas repartir les mains vides, Léo Fichot.
Oui, tout d'abord, et comme chaque année, avec le concours général agricole, il met à l'honneur la diversité, la qualité des produits, des vins, des animaux et des pratiques agricoles. Cette année, la Nouvelle-Calédonie a reçu 2 médailles. Le premier lauréat, c'est Philippe Joubert et sa femme, co-gérant de la distillerie Les Grosses Gouttes à Dumbéa. En 2024, leur whisky avait reçu le bronze. Cette année, c'est l'argent. Écoutez, c'est une fierté pour Philippe Joubert.
Vous devez l'entendre au son de ma voix. On a les larmes aux yeux parce que c'est notre travail qui est primé. On a une reconnaissance qu'on n'a pas toujours, malheureusement, sur le territoire, mais à l'international, on est reconnu. Donc ça, c'est une fierté. Et c'est un aboutissement pour nous en tant que... Surtout que là, c'était quelque chose que l'on a créé de toutes pièces. On n'est pas parti d'une recette qu'on est allé chercher chez un autre confrère ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes et qu'on est arrivé à ce résultat.
Et de son côté, Caroline Fèvre a reçu une médaille de bronze pour son miel tropical foncé. L'apicultrice défend un miel 100% bio élaboré à Dumbéa dans le respect des abeilles, bien évidemment, mais aussi de la nature. Elle était d'ailleurs l'invitée du magazine Citoyen consacré au miel hier. Ces 2 médailles pour la Nouvelle-Calédonie au concours général agricole offrent au territoire un bel éclairage sur la scène nationale et internationale. Par ailleurs, en ce qui concerne l'élevage, le Salon de l'Agriculture est aussi l'occasion d'accompagner le territoire. Par exemple, pour la problématique des tiques qui touchent le bétail. La station zootechnique de Port-Laguerre mène une lutte génétique avec l'apport de races plus résistantes. Jonathan Bouffaré, technicien à la station de Port-Laguerre.
Le problème numéro 1 en Calédonie et sur l'ensemble des élevages bovins, c'est la tique qui aujourd'hui affaiblit les troupeaux et qui malheureusement est omniprésente sur la totalité des élevages. Il y a plusieurs systèmes de contrôle de cette tique. Anciennement, à l'époque, on utilisait le système, la lutte chimique, donc avec des traitements chimiques, des bains de tactique, du butox et autres produits chimiques. Et maintenant, nous avons une lutte intégrée, donc avec la lutte génétique, avec des races résistantes comme la Brahman, la Dogmaster, le Sénépole, le Charbré, le Sénézin, le Bramousin et autres races. Ça diminue la pression parasitaire dans les parcelles, parce que les tiques ne peuvent pas se faire un cycle complet sur ces animaux-là. Et du coup, les tiques pondent moins. Enfin, il y a moins de tiques, donc moins de pontes, donc moins d'attaques sur les animaux.
Sur le stand calédonien à Paris, on suit bien sûr l'actualité de métropole, en particulier la dernière épidémie qui frappe le bétail dans l'Hexagone, la fameuse dermatose bovine, qui a contraint les organisateurs de ce salon de l'agriculture à interdire tout bovin porte de Versailles. Une épidémie qui pourrait représenter une opportunité pour le bétail calédonien, explique Jonathan Bouffaré.
Ce sera très compliqué de faire venir des vaches en métropole par des avions ou par des bateaux, mais il y a d'autres techniques que l'on maîtrise aussi nous en Calédonie. C'est la collecte d'embryons et la collecte de semences des taureaux, Brahman, Druckmaster et autres races tropicalisées vers la métropole en congelant ces semences ou ces embryons et les envoyer par avion et ensuite de les reposer sur des vaches porteuses en métropole. Ce seront des animaux sains étant donné que la Calédonie est indemne de toutes les maladies et en plus c'est des races sur lesquelles on travaille depuis plus de 30 ans voire 40 ans pour certaines et qu'aujourd'hui on a réussi à fixer des qualités maternelles, des qualités viande, des qualités de fertilité sur ces races Brahman, que ça pourrait aider les éleveurs métropolitains à maîtriser les tiques en métropole. Pour une fois, on sera en avance sur la métropole. Au fil des années, on a toujours utilisé les techniques métropolitaines ou australiennes. Et aujourd'hui, c'est nous qui pourrons apporter notre expertise aux éleveurs métropolitains.
Des propos recueillis à Paris par notre correspondant Xavier Robert. Notez que le Salon de l'Agriculture 2026 se poursuit jusqu'au week-end prochain, toujours du côté de Paris.
Oui, il est 18h passé de 11 minutes. On va tourner une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Rendez-vous à l'Hyper Auto Show du groupe Jando sur le parking du centre commercial Hyper Upaita du samedi 28 février au dimanche 8 mars. Plus de 10 marques représentées, des nouveautés hyper exclusives, des déstockages hyper massifs, des promos hyper intéressantes, des jeux, des animations et des solutions de financement. Ce serait hyper dommage de rater ça. L'Hyper Auto Show jusqu'au 8 mars au centre commercial Hyper Upaita, un salon organisé par le groupe Jando. Plus d'infos sur la page Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Michael Juneski.
Dans l'actualité sportive, le CTOS, le Comité Territorial Olympique et Sportif, qui accueille depuis une semaine deux formateurs de l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, Léo Fichot.
Thierry Dumaine, du pôle haut niveau de l'Institut, et Vincent Lecroleur, du pôle formation de l'INSEP, sont en Calédonie dans le cadre d'une convention signée entre le CTOS et l'INSEP en 2017, puis en 2025. Ces spécialistes de la formation et du haut niveau sont présents sur le territoire dans le cadre d'un projet dont la feuille de route comporte plusieurs axes. Vincent Lecroleur est en charge de l'ingénierie des projets de formation des cadres de haut niveau à l'INSEP.
Il y a un axe principal qui est l'accompagnement du CTOS dans la préparation de ces délégations pour les Jeux du Pacifique. Donc il y avait eu pour les Jeux de Samoa en 2019, les Jeux de Salomon en 2023, et puis la prochaine cible, là, c'est les Jeux de Tahiti en 2027. Donc ça, c'est un premier axe qui peut se décliner à la fois dans l'accompagnement du CTOS dans sa structure, dans son fonctionnement, la répartition des rôles sur ce projet-là, comment ils vont développer, décliner en tout cas leurs différentes actions dans le temps. Il y a l'accompagnement des ligues aussi sur la préparation, la conception et la mise en œuvre de leurs projets de performance, comment eux vont faire sur le temps qui est donné pour être performants aux Jeux de Tahiti et donc répondre un peu à l'objectif de performance du CTOS. Et puis il y a la formation des entraîneurs de manière générale. Ça sert à la fois le projet Jeux du Pacifique, mais également à la structuration des ligues dans lesquelles ils interviennent tout au long de l'année.
Et tout l'intérêt de ces formations est qu'elles peuvent se décliner pour plusieurs disciplines. Il s'agit d'un véritable accompagnement, explique Vincent Lecroleur.
Nous, on ne part pas du principe qu'on sait et on va transmettre. C'est plutôt chacun son degré d'expertise dans sa discipline par rapport à son vécu, son expérience, sa formation. Et nous, on vient plutôt apporter de la méthodologie, on vient apporter de la réflexion, des fois de la prise de recul pour que les choses émergent. Alors, bien sûr, on peut faire des propositions. Je travaille avec beaucoup de disciplines différentes depuis déjà pas mal d'années. Donc, j'ai des exemples, des choses qui ont fonctionné, donc des fois ça permet de gagner du temps, d'éviter des écueils, ça permet d'être source d'inspiration aussi, et puis des fois tout simplement l'entraîneur il a tellement la tête dans le guidon que un petit point d'étape, mettre un pas de côté, prendre du recul et se dire ah oui tiens c'est vrai, ça serait pas mal que je re-questionne ça. Et finalement, en réfléchissant, c'est peut-être plus pertinent aujourd'hui de faire les choses comme ça et pas de reproduire ce que j'ai fait avant, même si ça a fonctionné. C'est intéressant.
Et l'objectif final de ces formations des cadres techniques est bien évidemment d'amener les athlètes vers la performance, un chemin vers l'excellence qui débute par l'élaboration d'un projet de performance par la formation.
Sport toujours, Maxime Grousset a été élu par le CTOS athlète du mois BNC de janvier, une distinction qui récompense les performances du nageur calédonien lors des US Pro Swim Series. Maxime Grousset a notamment remporté le 100 mètres papillon en battant pour la première fois l'américain Caleb Dressel. Un dernier mot de sport pour signaler que c'est aujourd'hui le début de l'Open d'ouverture de l'Olympique de Nouméa, section squash à la salle Picou, des matchs qui se dérouleront durant les prochains jours, puis la semaine prochaine, finale prévue le 7 mars. Il est 18h15, l'heure de votre bulletin météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Alors nous avons évoqué évidemment dans la première partie de ce journal les conséquences des intempéries de ces derniers jours. Voyons un petit peu ce qui nous attend pour les prochaines heures. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Mickaël. Eh bien des vigilances, vigilance orange, forte pluie, orage sur la côte est de Ouégua à Kouaoua, sur la côte ouest aussi de Vaux à Moindou, et vigilance jaune, forte pluie, orage sur le reste du territoire, au nord d'une ligne Païta, Thio inclus, Bélep et Ouvéa compris. Cette nuit, en début de nuit, quelques averses résiduelles persisteront sur l'ouest, notamment vers Bouraille, avant une amélioration progressive et un temps plus sec. Ailleurs, des bancs nuages circuleront et donneront des averses isolées. Elles pourront encore être localement soutenues et orageuses sur le nord-est en première partie de nuit. Le vent sera d'est à sud-est entre 10 et 15 nœuds, atteignant 15 à 20 nœuds sur le sud en début de nuit. Sur la côte ouest, il restera souvent inférieur à 10 nœuds. Les températures, quant à elles, seront stables, comprises entre 23 et 26 degrés. Demain matin, sur l'ouest, le ciel sera passagèrement nuageux, mais le soleil s'imposera régulièrement avec de belles éclaircies. Ailleurs, les nuages resteront nombreux, accompagnés de quelques averses isolées, plus fréquentes et parfois plus intenses sur le nord des Loyautés, le nord-est et l'extrême nord. Côté vent, toujours d'est à sud-est, entre 10 et 15 nœuds. Il sera plus faible sur le nord-ouest, entre 5 et 10 nœuds. Et côté mer, la marée sera basse ce soir à 20h et remontera vers une marée haute à 3h20, coefficient compris entre 53 cm et 1,32 m. Et côté ciel, la lune montante éclaire la nuit à 60%, offrant un clair de lune bien présent malgré les passages nuageux.
Merci beaucoup Pierre pour la météo, la technique. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. L'info continue dans un instant. L'actualité nationale et dans le monde, ce sera suivi de l'interview. Interview d'Europe 1, Laurence Ferrari reçoit ce soir Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président du parti Horizon. Belle soirée sur RRB.